BFM Business et Tech & Co présentent Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Il est 20h pile, merci d'être là, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Merci de nous écouter, de nous regarder en direct ou en différé, les replays, les podcasts, vous le savez, qui vous attendent dans l'affaire de ce Tech & Co. Tech & Co, chaque soir, 20h, 21h30, vos 90 minutes de tech, du lundi au jeudi. Alors au sommaire, ce soir dans Tech & Co, eh bien une émission exceptionnelle, puisque dans quelques instants, la VP Santé d'Apple sera avec nous sur le plateau de Tech & Co, Sambul Desai, qui gère toute la santé connectée de la marque à la pomme, sera sur ce plateau. Le plan IA d'Emmanuel Macron pour faire de la France, on va dire, la terre d'excellence dans l'intelligence artificielle, c'est l'un des sujets qu'on va évoquer avec nos débriefeurs à partir de 20h30. Et puis, tout à l'heure, je recevrai le directeur produit d'Acer, Acer qui, avec Microsoft, s'apprête à sortir toute une gamme de PC boostés à l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va changer au quotidien dans notre travail? On posera la question à notre invité tout à l'heure. Voilà le contenu de ce Tech & Co. Exceptionnel, merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et comme je vous le disais, un invité exceptionnel ce soir dans Tech & Co. Nous avons un porte-parole d'Apple qui est avec nous sur le plateau. C'est assez rare pour le souligner et je tenais évidemment à remercier toute l'équipe d'Apple et notre invité qui est là, Sambul Desai. Bonsoir Sambul.
Thank you for having me.
Merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être là.
Et merci de prendre ces quelques minutes pour nous parler de votre métier. Alors, vous êtes VP Santé chez Apple. Alors, on se dit, pour tous ceux qui regardent un peu Apple de loin, la santé chez Apple, mais qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, il faut savoir que depuis plusieurs années, c'est une stratégie très, très forte, depuis l'Apple Watch, pour commencer, hein, depuis 2015, l'Apple Watch est aujourd'hui un véritable concentré de santé, entre autres pour énormément de fonctionnalités qu'on va énumérer dans quelques instants. Mais auparavant, j'aimerais que vous présentiez en fait à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Vous êtes donc, je disais, la vice-présidente de la santé chez Apple. Vous avez un parcours aussi qui est très intéressant. Vous avez été journaliste, après vous êtes devenu médecin et en 2017, vous avez intégré Apple, c'est ça?
That's correct. J'ai commencé ma carrière dans l'ingénierie, dans les sciences de l'informatique,
et je voulais devenir journaliste comme vous. En tant que journaliste, j'ai compris l'importance de la communication, à quel point c'est important de fournir des informations. Et en 2001, je m'occupais de ma mère qui était malade. Elle a fait une crise, un AVC très grave, et j'étais avec elle à ce moment-là. Et donc, en l'accompagnant dans sa maladie, je suis vraiment tombée amoureuse de la médecine. Et donc, j'ai décidé de revenir à l'université. Je travaillais en entreprise à l'époque, chez Walt Disney. Et donc, j'ai décidé de reprendre des études de médecine. J'avais 30 ans. Et j'ai suivi cette formation à Stanford. Et pendant cette formation, j'ai vu l'importance de cette intersection entre la technologie et la médecine et la façon dont ça pouvait vraiment changer la façon dont s'occupe des patients. Et donc, en 2017, alors que j'étais toujours à Stanford, j'ai commencé à parler aux équipes d'Apple. Et puis, en 2017, j'ai pu rejoindre cette équipe. Et ce fil rouge, en fait, entre mon passé et ma carrière à Apple, c'est vraiment l'autonomisation de chacun pour leur santé. Donc, comment faire en sorte que chacun puisse vraiment avoir accès à toutes les données de santé nécessaires, et c'est ce sur quoi on se concentre à Apple.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça prouve l'importance, en fait, de la santé chez Apple. Il y a un patron de la santé chez Apple, c'est vous. Je le disais, le point de départ, ça a été l'Apple Watch en 2015.
Oui, ça a commencé avec l'Apple Watch, mais en fait, c'est une aventure assez organique pour Apple. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on s'est vraiment concentré pour comprendre l'activité, l'exercice. Donc, on a pensé d'abord au rythme cardiaque quand on fait du sport. Et en fait, on pensait à l'utilisateur qui portait cette montre chaque jour. jour. Et en fait, on essayait de comprendre qu'est-ce qui pouvait être intéressé pour ces utilisateurs. Et les utilisateurs ont pu dire, j'ai vu que mon rythme cardiaque augmentait, alors je suis allée chez le médecin, et j'ai vu que j'avais effectivement un problème cardiaque. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un travail à faire là, on a vraiment tiré ce fil-là, et donc on a pensé à se concentrer sur les rythmes cardio irréguliers, penser à intégrer un cardiofréquencemètre. Et donc, en fait, en ayant ce retour des utilisateurs, on a vraiment tiré ce fil-là pour essayer d'autonomiser chacun dans la gestion de sa propre santé. Et donc, on essaye de penser à la façon d'utiliser la science pour les patients, les autonomiser pour qu'eux puissent faire ces démarches-là importantes pour leur santé. Et bien sûr, on pense à la vie privée qui est au cœur de tout ce que nous faisons. C'est encrypté, on s'assure que cette question de la vie privée soit vraiment respectée. Et en tant que médecin, je pense vraiment que il faut avoir le même niveau de respect de la vie privée lorsqu'on va chez le médecin sur sur nos produits. Et donc, que ce soit pour la mobilité, la santé des femmes, le rythme cardiaque, la santé des mouvements, l'équilibre, la santé mentale aussi, on se concentre vraiment sur la science et la vie privée.
J'aimerais qu'on revienne sur l'Apple Watch parce que c'est aujourd'hui un vrai petit laboratoire de santé. Au début, quand elle était sortie en 2015, il y avait effectivement un podomètre, on arrivait à avoir quelques données finalement, mais qui étaient vraiment très très loin de ce qu'elle fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, une Apple Watch permet de détecter des anomalies cardiaques, elle permet dans certains cas de mesurer la température corporelle, et on en est qu'au début, il y a d'autres fonctionnalités qui vont arriver. Est-ce que c'est un peu le cheval de Troie d'Apple pour monitorer notre santé aujourd'hui, l'Apple Watch? Est-ce que c'est avec cet appareil-là que vous arrivez à avoir un maximum d'informations sur notre santé?
Nous pensons vraiment que c'est un petit bijou. En fait, c'est cette capacité à vous notifier s'il y a une augmentation du rythme cardiaque. On mesure également la qualité du sommeil. Ça vous permet de recevoir des notifications s'il y a trop de bruit autour de vous. On pense vraiment que c'est ce compagnon qui vous accompagne au jour le jour, vous permet d'être plus proactif pour votre santé. Et on pense souvent à la santé lorsqu'on est malade. C'est-à-dire que c'est une réaction à quelque chose. Et on veut changer cela. On veut que chacun puisse penser à sa santé avant que la maladie arrive. Et donc, l'idée, c'est de vous aider à rester en bonne santé et pour que vous puissiez vivre plus longtemps en bonne santé. Voilà ce sur quoi on se concentre. Donc, oui, la détection de la température corporelle, par exemple, des estimations qu'on peut faire grâce à cette température. On peut effectivement détecter un rythme cardiaque trop élevé, trop bas ou irrégulier. On peut mesurer également l'oxygène. Donc toutes ces mesures sont importantes pour comprendre là où vous en êtes aujourd'hui, mais également comprendre là d'où vous venez en termes de santé. Et ça, c'est très important.
Tim Cook, votre CEO, de temps en temps, relaie des tweets de clients d'Apple Watch dont la vie a été sauvée. Alors, peut-être que le terme est un petit peu trop exagéré, mais en tous les cas, qui ont évité de graves problèmes de santé grâce à une Apple Watch. Est-ce que c'est pas finalement la plus belle récompense que vous pouvez avoir?
It is what motivates us every
day. Oui, c'est vraiment ce qui nous motive chaque jour. C'est recevoir ces lettres de la part de nos clients, tous ceux qui ont écrit pour dire... Je peux vous partager un cas précis qui est très important pour nous. Une femme, une mère, a pu réaliser qu'elle était enceinte et elle a envoyé un message à Tim Cook. Elle a dit, j'avais un rythme cardiaque trop élevé, je suis allée à l'hôpital et ils m'ont dit à l'hôpital, si je n'étais pas venue à ce moment-là, si j'avais attendu plus longtemps, j'aurais perdu mon bébé. Et entendre ce type d'histoire, cette capacité à pouvoir prévenir des problèmes graves et entendre qu'on a pu sauver la vie d'une personne, mais également la vie de son bébé, c'est vraiment une récompense incroyable. C'est ce qui nous motive à faire davantage dans ce domaine pour aider chacun.
Sambou, la chose intéressante aussi, c'est que finalement, la santé, c'est quelque chose qui est assez anxiogène. C'est-à-dire que ça peut faire peur, le fait d'avoir une montre qui nous envoie des notifications, etc. Malgré tout, vous le disiez, la priorité, c'est la prévention. Est-ce que les deux, ces deux choses sont compatibles? Est-ce que tout le monde est prêt à avoir des informations comme ça, qui peuvent être parfois un peu désagréables à lire, sur notre état de santé?
Absolutely. We spend.
Oui, je comprends. Nous passons beaucoup de temps à réfléchir à la façon de présenter une information au client, justement pour ne pas être source d'anxiété. Donc, on pense à la couleur, on pense au type de vocabulaire qu'on emploie, on pense au design. Vraiment, on pense à cette conception du début à la fin pour être sûr que l'on fournit des informations qui vous autonomisent et qui vous permettent de prendre le contrôle sur votre santé et qui ne vous causent pas d'angoisse. Donc, nous essayons de penser à la façon dont on fournit des informations. On peut vous donner des informations qui peuvent éliminer l'anxiété et qui sont plus source d'éducation.
Autre particularité de l'Apple Watch, c'est d'avertir les secours lorsqu'il y a un problème. Par exemple, je cours, je fais un jogging, je vais tomber avec mon Apple Watch. Il y a tout un processus qui va se mettre en route à partir de ce moment-là, parce que la montre, en fait, grâce à ses capteurs, va détecter qu'il y a une situation qui est anormale, c'est ça?
Absolutely. So we
tout à fait. Donc on a des capteurs qui détectent les chutes, donc que ce soit pendant que vous couriez ou parce que vous êtes sur une échelle ou peu importe, cela appelle les urgences. La montre peut également appeler vos proches si vous avez mis un numéro d'urgence. On peut aussi détecter si c'est un accident de voiture. Donc c'est vraiment un gardien intelligent qui vient vous protéger dans ces moments clés.
Petite question aussi sur l'iPhone en lui-même. Il intègre de plus en plus aussi de fonctions d'urgence et de santé. On le voit, on reçoit des petites notifications de temps en temps pour nous dire qu'on a assez marché ou pas assez marché. Souvent, pour mon cas, c'est que j'ai pas assez marché. Il y a aussi des fonctions justement de choc quand on est dans une voiture. L'idée, c'est de créer tout un écosystème d'objets au-delà de l'Apple Watch qui nous permettent en fait de prendre soin de nous, c'est ça?
Absolutely. We
tout
think
à fait.
About Apple Watch.
Nous pensons vraiment que c'est important que l'Apple Watch travaille avec l'iPhone. Sur l'iPhone, on a beaucoup des mêmes fonctionnalités. Par exemple, permettre de suivre son cycle menstruel, mesurer l'équilibre lorsque l'on marche, etc. Donc, on pense que tout l'écosystème doit être profitable à votre santé, à votre bien-être. Donc, si on pense par exemple aux fonctionnalités de santé mentale, cette fonctionnalité est disponible sur l'Apple Watch et sur l'iPhone. Et on veut vraiment que vous puissiez utiliser ces technologies pour prendre soin de vous-même et que vous soyez vraiment conscient de la façon dont vous utilisez ces technologies, c'est-à-dire pas seulement les utiliser n'importe quand, mais prendre une décision consciente de prendre soin de votre santé physique et mentale.
Il y a une autre fonctionnalité qu'on attend beaucoup, c'est la tension artérielle. Est-ce que, grâce à une montre, en l'occurrence une Apple Watch, on pourrait avoir un jour cette information?
It's a great question.
C'est une très bonne question. C'est un domaine qui nous semble très important. Mais pour l'instant, nous n'avons rien à annoncer. Bien essayé, mais je n'ai rien à annoncer aujourd'hui.
Voilà, la prochaine Apple Watch sortira la rentrée prochaine, sans doute, puisque il y a, on va dire, une parution régulière de nouveaux modèles en septembre. Une petite question sur l'écosystème français. Vous êtes en France ici. C'est un pays que vous connaissez. La France a une réputation d'excellence en matière de santé. Est-ce que vous vous y intéressez? Est-ce qu'il y a des startups ou, on va dire, de grands chercheurs qui vous intéressent ici?
Il y a de très bonnes startups en France que nous aimons beaucoup. Ce sont de bons développeurs. Il y a Foodvisor, par exemple, qui fait un très bon travail sur la nutrition. Il y a Luna Health aussi, qui se concentre sur la santé des femmes et le bien-être lié au cycle menstruel. Je pense que ce sont de très bonnes startups qui font un très bon travail sur la santé et nous sommes vraiment ravis de voir que des développeurs puissent utiliser nos cadres pour vraiment aller plus loin encore et créer de formidables expériences. Donc, on est toujours ravis de voir ce qui ce qui sort là-dessus. Il y a de très bonnes recherches également menées dans les hôpitaux en France, notamment sur la mobilité, sur la rééducation après une chute. Donc c'est très intéressant de voir la communauté des développeurs et la communauté de la recherche qui font un très bon travail sur la santé.
Est-ce que la technologie va changer le métier des médecins, à votre avis ? Et surtout, quels sont les, comment réagissent les médecins à ces nouveaux outils ? Aujourd'hui, on peut avoir un électrocardiogramme depuis, en fait, une Apple Watch et envoyer un PDF directement à son médecin. Est-ce que tous les médecins sont prêts à travailler avec ces nouveaux outils ?
You know, as a physician, myself,
en tant que médecin, moi-même, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Tout d'abord, je veux m'assurer que nous travaillons en partenariat avec les médecins. On n'essaie pas de remplacer les médecins, on veut travailler avec eux. Ça, c'est très important. On pense vraiment à la façon dont on peut fournir des informations sur le temps long, c'est-à-dire que ensuite, le médecin peut avoir un aperçu rapide sur la santé à long terme d'un patient. Comme ça, lorsque le médecin est avec le patient, il peut avoir plus d'informations pour prendre de meilleures décisions cliniques. Donc notre approche, c'est vraiment ce travailler main dans la main avec la communauté des médecins, travailler avec eux pour comprendre ce qui est utile pour eux aussi. Et d'ailleurs, pour la plupart des fonctionnalités que nous avons développées, nous avons eu des rencontres avec les médecins pour comprendre ce qui les intéressait, la façon dont ils veulent voir l'information, ce qui serait utile ou pas pour eux. Et on prend tous ces retours en compte pour développer nos propres produits. Comme vous pouvez l'imaginer, en tant que médecin, je suis vraiment intéressé par le fait que ces médecins puissent comprendre que c'est un ajout utile pour eux.
On va parler tout à l'heure du Vision Pro, qui est un nouveau produit qui n'est pas encore arrivé en France, qui est disponible aux États-Unis. On souhaite qu'il arrive bientôt chez nous et on imagine qu'il y a aussi une approche santé intéressante. Mais est-ce qu'on peut imaginer d'autres produits technologique qui pourrait monitorer notre santé? On a parlé de l'Apple Watch, on a parlé aussi de l'iPhone, mais il y a un autre produit qui est sur, on va dire, dans les oreilles de beaucoup de gens, ce sont les AirPods. Est-ce que pour vous, les AirPods, ça peut être un objet intéressant pour récupérer des données santé?
We look at everything across our ecosystem.
On pense à tous les produits qui font partie de notre écosystème et on pense à la façon dont on peut les utiliser pour autonomiser chacun des clients, des patients pour vivre une vie en meilleure santé. Et encore une fois, le respect de la vie privée est au cœur de notre travail. Donc on pense vraiment à tous nos produits avec cet angle santé-là et on est ravis de pouvoir continuer à construire cette vision. La science nous guide et on va pouvoir continuer à développer des produits qui devraient améliorer la santé chez tous nos clients.
Quand on parle de santé, on évoque les personnes qui sont en situation de handicap ou tout simplement parce qu'on vieillit, parce qu'on entend moins bien. C'est un sujet aussi qui vous intéresse, ça. Le fait, par exemple, d'améliorer l'audition des gens. Je crois qu'il y a des travaux justement là-dessus pour que, justement, peut-être avec des AirPods, on puisse aider des personnes qui sont déficientes au niveau auditif.
We've actually, you may be familiar, we have something called
Alors,
the Apple Hearing
nous avons l'Apple Hearing Study. C'est un sujet qui nous intéresse, effectivement, l'audition. Donc, on a cette étude qui s'appelle Apple Hearing. On travaille avec notamment l'OMS. Ça nous permet de comprendre l'impact du bruit sur votre audition à long terme. Comme vous le savez, l'audition, c'est notre connexion au monde, c'est-à-dire ça nous permet vraiment d'être en connexion avec nos congénères, ça peut avoir un impact sur l'isolation à long terme, la dépression, et donc on mène cette étude et c'est très intéressant pour nous, ça nous permet de comprendre là où la science, comprendre comment l'environnement impacte notre audition, nous permet de comprendre là où on peut être utile avec la science.
Un mot sur le Vision Pro qui, j'imagine, pour vous, en tant que VP santé chez Apple, doit être un terrain de jeu incroyable. Est-ce que vous pensez que ce nouveau produit va apporter sa pierre à l'édifice dans le domaine de la santé chez Apple?
Je pense que Vision Pro est source de beaucoup d'opportunités sur l'éducation à la santé, par exemple. En tant que médecin, ancienne étudiante de médecine, on a une expression qui dit « c'est en voyant qu'on apprend ». Et la capacité à faire de la pratique, utiliser cette plateforme de Vision Pro, peut avoir un vrai impact sur l'éducation en médecine, l'enseignement de la médecine. On a déjà entendu parler des tour de médecins qui parlent de Vision Pro comme une aide pour la chirurgie, pour apprendre à faire certaines techniques. Et donc, on est vraiment ravis de pouvoir explorer cette fonctionnalité santé sur Vision Pro. On a déjà eu des retours de la part de médecins aux États-Unis qui ont commencé à utiliser Vision Pro. Et j'espère qu'en Europe, lorsque cela arrivera, vous pourrez également l'utiliser. Mais il y a un vrai potentiel qui nous intéresse beaucoup. Nous pensons vraiment dans l'enseignement et également dans le diagnostic. Également, ça pourrait être très intéressant.
Je crois que même il y a eu des opérations chirurgicales qui ont été faites à l'aide du Vision Pro.
That's right. There was a physician in
tout à fait, un médecin aux États-Unis qui est ophtalmologue et il a pu l'utiliser pour la chirurgie. C'est incroyable de voir ce qui se passe. On a une institution qui s'appelle l'Université de Californie San Diego et ils font de belles choses avec l'imagerie médicale aussi. Il y a une autre institution aux États-Unis à San Diego aussi, Scripps, et là ils réfléchissent également aux chirurgies des yeux. En tout cas, c'est vraiment une opportunité qui peut changer beaucoup de choses. Mais encore une fois, on pense à la technologie, on veut que la science nous guide, on veut que les médecins nous fassent des retours, parlent de ce dont ils ont besoin. Le respect de la vie privée encore est au cœur de notre travail, donc on construit nos produits comme ceci. Donc il y a un vrai développement qui arrive et je suis ravie que vous puissiez l'essayer bientôt.
Oui, j'espère bientôt qu'il sortira en France. Et puis il faut aussi que les développeurs s'intéressent en fait à ce nouvel outil pour qu'ils développent des applications qui pourraient justement aider les médecins. Encore une petite question sur la santé mentale, parce que c'est un sujet aussi qui, je crois, vous intéresse beaucoup. En quoi la technologie peut aider les gens qui sont, on va dire, dans une situation compliquée en termes de, peut-être de dépression ou de santé mentale déficiente? À votre avis?
Je crois que c'est très important de penser à votre santé de manière complète, c'est-à-dire la santé physique et la santé mentale. L'année dernière, nous avons annoncé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle État d'esprit, State of Mind. Et cette fonctionnalité utilise le principe scientifique de nommer une émotion à un moment, comprendre ce que vous ressentez, comprendre à quoi cette émotion est associée, qu'est-ce qui la cause. Et en fait, simplement nommer une émotion, scientifiquement, ça a été prouvé que cela permet d'améliorer votre résilience mentale et votre bien-être mental. Et donc, grâce à cette fonctionnalité, on vous permet d'enregistrer votre émotion, d'enregistrer votre humeur, mais également de suivre des évaluations sur l'anxiété et la dépression, des évaluations qui sont basées sur une étude scientifique. Et donc, ça vous permet de contrôler cela à long terme. Et ensuite, vous pouvez partager toutes ces données-là avec votre médecin et avoir une discussion sur ce sujet-là avec votre médecin. Donc ça permet vraiment de retirer ce tabou de la santé mentale, faire en sorte que ce ne soit pas problématique de parler de la santé mentale, que chacun puisse se sentir à l'aise d'en parler, comprendre que chacun a besoin d'aide à un moment donné et comprendre que c'est normal que ça aille moins bien parfois. Donc on veut vraiment permettre à chacun de surveiller et de comprendre ses émotions à long terme.
Une question sur l'intelligence artificielle qui est sur le bout des lèvres de tout le monde. Est-ce que vous pensez que l'IA générative, ou on va dire traditionnelle, va bouleverser la santé? Est-ce que Apple s'y intéresse? Est-ce que vous vous y intéressez à l'intelligence artificielle?
Toutes les technologies nous intéressent. En fait, on en revient toujours à utiliser toute technologie en étant sûr que la science nous guide. Parce qu'il n'y a rien de plus important que votre santé. Et lorsqu'on se concentre sur n'importe quel domaine, peu importe la technologie qu'on utilise, on veut s'assurer que l'on réfléchit bien à la façon dont on intègre la technologie à cette science qui nous guide pour être sûr qu'il y a un vrai respect de la vie privée aussi et qu'on puisse fournir des expériences qui soient intéressantes pour chacun, pour vraiment résoudre un problème potentiel. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre encore sur ce sujet.
Dernière question, on vit dans un monde où tout est de plus en plus régulé, on le voit avec le DMA en Europe. Est-ce que la santé, à votre avis, doit être régulée et de quelle manière?
So, you know, in health, the health space is a little different. So we,
la santé, c'est un peu différent. Par exemple, nous avons ce contrôle de cardiofréquencemètre. Donc, on parle souvent avec les législateurs et il y a des réglementations dans tous les pays. Et on parle souvent avec les gouvernements et les législateurs pour vraiment comprendre l'importance des politiques en place et comprendre la façon dont ces politiques devraient être développées au vu des nouvelles technologies qui existent. Et nos conversations avec les législateurs sont très intéressantes. Ils veulent entendre ce qu'on a à dire et nous, nous voulons également avoir leur retour pour comprendre comment apporter ces appareils médicaux à ceux qui en ont besoin. Et comprendre, développer ces fonctionnalités aussi en suivant les réglementations en place. Ce qu'on voit souvent, c'est que les législateurs et les entreprises ont de vraies conversations où ils peuvent travailler de concert de manière très efficace. Et ça a été très important et utile pour l'espace santé. Ce n'est pas nouveau pour nous parce que la santé, c'est toujours un domaine qui est bien réglementé. Donc on a des conversations depuis des années avec les législateurs. En France, par exemple, nous parlons souvent avec les autorités, le gouvernement, les entités de réglementation et on le fait ça partout dans le monde.
Eh bien, merci beaucoup, Sombul, pour toutes les réponses à ces questions. C'est passionnant, hein, le fait de voir que la santé est en train d'être bouleversée par la technologie, avec notamment la prévention, vous le disiez. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co ce soir. Merci beaucoup.
Thank you very much for having me.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle qu'entre 20h et 20h30, on vous a diffusé une interview exceptionnelle de Sombul Desai, qui est la vice-présidente en charge de la santé chez Apple. Parole rare, hein, d'un VP de chez Apple. Et évidemment, cette interview, vous pouvez la retrouver d'ores et déjà en replay sur nos plateformes RMC BFM Play et sur l'appli BFM Business. Pour débriefer l'actu de ce soir, en ce mardi 21 mai, Michel Lévy-Provençal est avec nous. Salut Michel.
Bonsoir François.
Prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Et c'est aussi Emmanuel Vignon qui est avec nous ce soir. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir François.
Président de Sicara. Sicara, boîte spécialisée dans l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quel est le job de Sicara, Emmanuel?
Sicara, on construit des applications qui s'appuient sur les algorithmes d'intelligence artificielle.
Pour... Machine learning, tout ça?
Exactement, machine learning pour différents secteurs d'activité. Le retail, la santé, la logistique... des choses comme ça.
Voilà, et tu t'intéresses bien évidemment à l'intelligence artificielle.
Ah bah, surtout que ça change beaucoup, ça évolue énormément.
Tu baignes dedans.
Et donc c'est génial.
Voilà, et on est très heureux de t'avoir avec nous pour commenter cette actu. Alors on va évoquer dans quelques instants VivaTech, bien sûr. On va évoquer aussi les constructeurs de PC qui, sous l'impulsion de Microsoft, mettent à jour leurs machines. C'est-à-dire que là, dans quelques semaines, vous aurez des nouveaux PC avec de nouveaux processeurs qui intégreront l'intelligence artificielle générative. Pourquoi faire, on en parlera tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, on va évoquer Emmanuel Macron, qui a ouvert aujourd'hui une séquence sur l'intelligence artificielle à l'Élysée, une séquence qui s'est terminée d'ailleurs il y a quelques minutes, avec comme objectif ni plus ni moins de faire de Paris une des capitales de l'IA. L'ancien dirigeant de Google, Eric Schmidt, est intervenu en tout début de cette séquence. Il explique pourquoi la France veut s'imposer dans l'intelligence artificielle. On l'écoute. Eric Schmidt.
Il faut beaucoup d'argent, beaucoup de gens intelligents et un système politique fort, un engagement à long terme. La France est unique parmi les pays européens. Vous avez à la fois l'échelle et l'objectif d'être fort dans le secteur. De nombreux pays européens veulent simplement réglementer les inconvénients.
Ça fait plaisir, cet optimiste, Eric Schmidt, qui n'est pas n'importe qui quand même, hein, qui dit la France a tout pour être vraiment la capitale de l'IA, l'une des capitales de l'IA. C'est rassurant, ça fait plaisir.
Oui, et je pense qu'il a raison. On a effectivement des talents extraordinaires qui d'ailleurs nous sont chassés par les géants. Je rappelle quand même que Facebook, Meta maintenant a monté un pôle IA en France, à Paris. C'est le cas aussi
Piloté par Yann Lequin.
Piloté par Yann Lequin.
Sommité dans ce domaine.
Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de talent. Il nous manquait peut-être la volonté ou la prise de conscience et surtout les fonds à l'échelle européenne. Et il semblerait... Alors, on n'a pas tous les détails encore de ce fonds qu'a annoncé Emmanuel Macron pendant sa prise de parole. Mais ce serait une très très bonne nouvelle, en effet, que l'Europe puisse avoir, non pas cette volonté de réguler simplement, comme le disait Schmitt, mais aussi de financer et de construire un écosystème à l'échelle européenne pour nous permettre de devenir véritablement des champions face à la Chine et face aux États-Unis.
Alors, les propos du président sont ceux-ci, un réveil du financement européen sur les technologies de l'IA. Emmanuel, il est temps qu'on investisse. Alors, il y a des investissements, BPI bien évidemment, etc., mais il faudrait prendre du recul et avoir des investissements beaucoup plus massifs au niveau européen. En tout cas, c'est ce qu'a sous-entendu Emmanuel Macron.
Oui, bien entendu, il faut des investissements beaucoup plus importants, même si il faut pas non plus violer notre culture. On est relativement différent aussi de cet environnement anglo-saxon. Je pense que justement, ce qui est fort en France, c'est qu'on arrive à faire des choses peut-être plus efficacement. Quand je vois ce que Mistral arrive à faire, avec les moyens qu'ils ont, je pense que c'est un moyen d'être fier d'être français. Voilà, on arrive à jouer dans la cour des grands.
On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ça, c'était le slogan des années 70 qui finalement on peut en faire un parallèle.
Et d'ailleurs, je vous cite une anecdote. Je discutais avec un entrepreneur qui a passé la dernière saison de Y Combinator, qui est le fonds d'investissement l'incubateur un peu emblématique de la Silicon Valley. Et quand il discute sur place, les gens lui disent il y a deux endroits où il faut être dans l'IA en 2024, c'est San Francisco et Paris. Alors, est-ce que c'était pour être poli ou des choses comme ça? Je sais pas. Moi, j'ai cet optimisme naturel qui me laisse penser qu'effectivement, Paris est une place incontournable de l'IA.
Ouais, c'est clair que Paris a d'énormes atouts. Cette idée de l'innovation frugale que tu évoquais, effectivement, on la voit au travers de projets comme Mistral, qui ont peu de fonds par rapport à des géants comme OpenAI, ou même d'une certaine manière Anthropic. Et c'est le cas aussi d'une autre start-up dont on entend un peu moins parler parce qu'elle est moins médiatisée, mais qui est tout aussi impressionnante en termes de qualité. C'est Lighton, une start-up française, qui a un modèle fondation open source, très efficace aussi. Alors, malheureusement, on n'arrive pas à rivaliser face à OpenAI aujourd'hui en France.
Aujourd'hui, quand on regarde des benchmarks, donc des sites qui vont comparer la capacité, les performances des modèles,
On est encore loin. Mistral est quand même très très loin de GPT-4o. On peut peut-être comparer à un autre modèle open source comme Llama avec celui de Meta, mais GPT-4o est quand même très très loin dans les benchmarks.
Et c'est vrai que c'est impressionnant. Enfin, c'est même, impressionnant. Même à l'usage, je ne sais pas si tu as testé, Emmanuel.
Ouais, tous les jours. Tous les jours. Le 4o. Oui, tous les jours. Le côté multimodal est très intéressant. Moi, je m'amuse souvent à, par exemple, griffonner un schéma d'architecture. Le faire lire à l'époque GPT-4, mais GPT-4o le ferait aussi, et de lui demander qu'est-ce qu'il faudrait changer sur ce schéma d'architecture, est-ce qu'il est bien, combien de temps je mettrais pour l'implémenter, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un outil aujourd'hui, c'est un outil, ça remplace pas intégralement ce que je fais, mais c'est vraiment un outil dont je me sers tous les jours.
Avec une rapidité d'exécution qui est impressionnante par rapport à la précédente version, c'est ça aussi la force de GPT-4o.
C'est
rapide.
C'est tout l'enjeu face à des acteurs comme Mistral ou d'autres startups, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un modèle de fondation, qui est extrêmement efficace, OpenAI, GPT-4o, et ensuite ils ont construit au-dessus des couches applicatives qui mènent progressivement vers des agents intelligents, de plus en plus intelligents, voire auto-orchestrés, voire autonomes. Et là, on est encore très loin en France, que ce soit avec Mistral, que ce soit avec Lighton, ou même avec une start-up qui a été annoncée ce soir, H, apparemment.
Anciennement Holistic AI, avec des actionnaires prestigieux, puisqu'il y a Bernard Arnault, Xavier Niel, l'ancien patron de Google, Eric Schmidt, qu'on écoutait tout à l'heure, et il y a même Amazon et Samsung qui ont investi dedans. Voilà. Pour 220 millions, je crois, 220 millions de dollars.
Et ce qui est intéressant avec cette start-up, c'est qu'en effet, ils ont l'ambition de développer non seulement un modèle fondation, mais les couches qui sont au-dessus, c'est-à-dire de créer des agents. Ils le disent dans le communiqué de presse, alors je ne sais pas s'ils vont y parvenir, mais leur objectif, c'est de créer une intelligence artificielle générale. Ils ont la même ambition qu'OpenAI. Est-ce qu'ils vont avoir le même financement ?
Alors, ce que je trouverais intéressant, c'est de faire un parallèle avec ce que disait Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il a le début de son discours était très sur les usages. Donc, il tirait un peu des leçons du passé en disant, enfin du passé, on parle des 5 dernières années, en disant que on s'y est mal pris sur l'IA parce que on a laissé entendre que ça allait remplacer les gens, que ça allait détruire des emplois ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, moi, je crois fermement que l'IA crée un écosystème. Un écosystème, ça veut dire que c'est quelque chose dans lequel pas seulement les gens qui créent des foundation models vont pouvoir en tirer profit. Et c'est là où ça devient intéressant. On fait souvent un parallèle avec les general purpose technology, d'accord, les technologies d'intérêt général. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que general purpose technology, c'est GPT. Moi, je suis sûr qu'il y a un lien avec GPT-4 et general purpose technology.
C'est intéressant, ça.
L'électricité, par exemple, est une general purpose technology et ça crée un écosystème. Ça veut dire qu'il n'y a pas que Edison qui gagne, enfin qui en profite, mais ça transforme la manière dont on.
Ça accélère la société.
Ça accélère la société, exactement. Et pour que ça accélère la société, il faut que tout le monde l'utilise. Et donc, ce que j'ai bien aimé dans cette allocution, en tout cas dans le début de l'allocution d'Emmanuel Macron, c'est cette volonté d'avoir un accès équitable et massif à l'IA. D'accord ?
Très bien. Alors, juste pour se remettre un peu dans le contexte, ce discours a été prévu de longue date. Hein. Il devait être en préambule de la présence d'Emmanuel Macron à VivaTech. L'actualité en Nouvelle-Calédonie, bien évidemment, a chamboulé tout ce planning, puisque Emmanuel Macron doit être dans l'avion, là, justement, pour partir en Nouvelle-Calédonie. Donc, il ne sera pas à VivaTech. Mais malgré tout, on a quelques informations hein, qui ont été annoncées durant ce discours. Déjà, la vision du gouvernement, elle repose en fait sur les recommandations qui ont été données par ce livre de l'intelligence artificielle qu'on avait évoqué en octobre dernier. Oui. Et on a quand même quelques chiffres pour former massivement à l'IA, parce que évidemment la clé de tout ça, c'est la formation. 400 millions d'euros vont être investis dans 9 centres d'excellence. Emmanuel Macron appelle ça des clusters IA. Et je trouve que c'est une très très bonne idée. Ça existe déjà, mais je pense que ça va être encore plus accéléré. Hein. On va dire que les grandes villes auront leur cluster IA où ils vont pouvoir former, on va dire, les ingénieurs, les talents, les pépites de demain dans l'intelligence artificielle.
Oui, Michel. Mais c'est cette même idée d'écosystème. C'est-à-dire qu'un cluster, c'est un écosystème. Il y a une autre dimension en France aussi qui est très importante, c'est qu'on est particulièrement investi dans l'open source. Je veux dire, les projets, les principaux projets d'IA, c'est le cas de Mistral, c'est le cas de Lighton, sont des modèles open source. Alors, il y a une boîte qui est fondée par des Français, mais qui n'est plus française, qui est Hugging Face, qui est une plateforme
franco-américaine, je crois.
En fait, le fondateur, Clément Delangue, est français,
mais il est
à New York, et aujourd'hui, la boîte est américaine. Mais c'est bien cet esprit, c'est bien cette culture de l'écosystème, de l'open source qu'on retrouve notamment chez Hugging Face. Et donc, cette idée de cluster rejoint l'idée que tu évoquais d'écosystème, qui est fondamentale, parce que ça n'est pas une entreprise ou deux entreprises ou une décision étatique qui va permettre de créer une puissance IA, comme on parle de puissance nucléaire, aujourd'hui on peut parler de puissance en termes géostratégiques, géopolitiques, de puissance IA à l'échelle européenne, c'est avant tout des écosystèmes. Et ces clusters, non seulement il est très important de les avoir en France, mais il serait aussi très pertinent de les étendre à l'échelle européenne. Et c'est probablement ce que Emmanuel Macron a en tête quand il parle de financement dans un premier temps, qui serait peut-être français, mais qui a vocation à être européen.
Alors, ce fonds européen, je crois qu'il est décorrélé des 400 millions qui ont été annoncés pour ce cluster. On ne sait pas.
Non.
On ne connaît pas la somme.
On ne connaît pas le montant.
Parce qu'au niveau européen, on peut imaginer que ça peut être plusieurs milliards, espérons-le. Maintenant, il va falloir s'entendre avec tous les pays européens.
Oui, alors, on ne sait pas.
C'est ça la question.
C'est pas dit que ce soit un fonds européen. Je pense que Emmanuel Macron, il a vraiment envie d'accélérer et je pense qu'il saura être pragmatique si jamais on a du mal à s'entendre avec les Européens. Et puis on l'a déjà vu avec la création de la BPI ou des choses comme ça. Donc on peut aussi avoir des initiatives qui sont franco-françaises quelque part. Là-dessus, je sais pas. Je dirais pas nécessairement que ce sera un fonds européen. Je sais pas, Michel, si tu as une idée sur la question.
En fait, le problème, c'est que la taille nécessaire pour pouvoir construire cette puissance, on ne pourra pas l'avoir à l'échelle française. Mmh. Donc, si on veut peser, il faut que ce soit à l'échelle européenne. Ouais. Le plus grand fonds d'investissement, alors pas que tech, hein, c'est le fonds norvégien, je crois, qui pèse 1300 milliards de dollars. Wow. C'est un fonds...
Ouais, c'est énorme.
C'est énorme. En France, la BPI, si je ne me trompe pas, ça doit être autour de 40 milliards, mmh. il me semble. Donc... par rapport à
c'est
des
pas les mêmes échelles.
C'est pas les mêmes échelles. Il faut qu'on puisse peser, même les fonds chinois, c'est d'autres échelles, c'est en centaines de milliards.
Alors, donc,
comment est-ce qu'on fait pour agir à l'échelle européenne? Et je pense que c'est la clé.
Pour creuser un petit peu plus ce qu'a dit Emmanuel Macron tout à l'heure, donc il imagine un nouveau fonds d'un montant significatif, alors le montant n'a pas été précisé, qui serait souscrit à un quart par l'État français, et l'objectif est de l'européaniser ce fonds-là, c'est-à-dire que la mèche serait française pour après peut-être une explosion européenne, et en fait il souhaiterait commencer par une initiative franco-allemande pour faire monter la mayonnaise,
logique.
En quelque sorte. Ça serait plutôt logique. L'autre chose intéressante, c'est la volonté de faire venir les acteurs étrangers aussi, et en facilitant le foncier. Parce que vous savez qu'en France, on est un pays formidable, mais il est parfois compliqué pour des boîtes américaines de venir s'installer sur le territoire français. Enfin, les procédures sont assez complexes, et donc Emmanuel Macron aimerait faciliter tout ça et dire aux Amazon, aux Microsoft, aux Google de venir investir en France, pourquoi pas Intel aussi, pour créer des puces IA. Et ça, c'est intéressant, il a signalé, donc peut-être que demain, il y aurait des facilités pour que des acteurs américains puissent venir sur le sol français, et pourquoi pas créer des usines de puces. Parce que c'est ça l'objectif.
Alors, c'est ce qui probablement va se faire. On a tous en tête l'événement Choose France qui a eu lieu il y a quelques semaines à Versailles. Et dont les bilans, enfin moi à chaque fois que je lis un article sur cet événement-là, je vois un bilan extrêmement positif, des gens qui sont prêts à investir en France, et l'État français qui s'engage dans une simplification administrative et bureaucratique. Là aussi, de bon augure, je pense, et je pense que Emmanuel Macron est une figure importante et emblématique sur l'accueil et l'attractivité de la France sur la scène internationale.
Dernière chose sur ce sujet, c'est le sommet mondial de l'IA. Oui. Le précédent s'est déroulé à Séoul,
Le précédent, c'était au UK.
Au UK, pardon.
Et celui-là était à Séoul.
Celui-ci était à Séoul. Le prochain aura lieu en France.
En France, en février 2025.
Voilà, ça sera le 11 et 12 février, je crois. Ouais, 10 et 11, pardon. 10 et 11 février 2025. Donc la France, pendant deux jours, va être au cœur des réflexions sur l'IA. Ça nous laisse quand même quelques mois pour peaufiner en fait tout ce qui a été annoncé là par Emmanuel Macron, avec peut-être des résultats tangibles début d'année 2025.
Oui, alors on en attend beaucoup de ce salon. D'ailleurs, les gens, celui de Séoul n'a pas forcément très bien marché, pour être honnête. Beaucoup de gens n'étaient pas présents. Le Canada n'était pas là, la Hollande n'était pas là. DeepMind a dit c'est super, mais je te dis pas qui vient, et donc en fait on savait pas jusqu'au dernier moment si allaient venir ou pas. Mmh. Donc ça n'a pas été très suivi. Et les gens se disent que celui de la France, celui de février 2025, sera vraiment considéré comme une grand-messe. Alors,
ce serait une très bonne nouvelle.
Michel, bonne nouvelle ça, non ?
C'est une très bonne nouvelle, mais ce serait encore une meilleure nouvelle si c'était pas simplement un événement français, mais un événement européen.
Ah oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'on aurait tout intérêt à inviter les gens d'Alpha, qui est le fameux modèle allemand, dans lequel SAP notamment. Alors, ils ont été très forts, Alpha, parce qu'ils ont embarqué une grande partie des industries allemandes au sein du capital. Et donc, si on pouvait en faire un événement européen pour aller dans cette voie qui consiste à créer un mouvement européen et pas simplement franco-français, et sortir de notre posture parfois un peu arrogante qu'on connaît, pour en faire un projet, une plateforme qui peut rivaliser avec les Américains et les Chinois, ce serait vraiment extraordinaire.
Voilà, on reviendra bien évidemment sur toutes ces annonces qui ont été faites il y a quelques minutes. Donc voilà, on réagit quasiment en temps réel aux propos d'Emmanuel Macron. Il est 20h49 dans l'actu, toujours dans l'IA. C'est Microsoft qui a annoncé ni plus ni moins que le PC du futur passera par l'intelligence artificielle. C'est intéressant parce que on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Alors, hormis ChatGPT, qui peut avoir des usages grand public, mais la plupart du temps, quand on évoque l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou non, c'est vraiment pour les entreprises. Là, Microsoft, avec ses partenaires, hein, c'est-à-dire les constructeurs de PC, s'apprête à sortir une nouvelle génération d'ordinateurs avec des puces qui ont été complètement repensées et qui vont permettre d'avoir de l'IA directement sur le PC, même sans être connecté. C'est ça qui est intéressant. Et c'est donc des PC à l'IA avec à l'intérieur un copilote, hein, Emmanuel. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu toutes ces annonces qui ont été faites par Microsoft. Donc,
déjà, oui, Microsoft, déjà il y a 50 ans, quand ils ont créé le personal computer, c'était vraiment dans leur ADN de dire je prends ce qui normalement existe dans le monde professionnel et je le ramène à la maison. C'est le personal computer. Donc là, quelque part, ils font le personal AI agent. On pourrait imaginer quelque chose comme ça. Bon, ça, c'est la version un peu jolie, mais c'est pas nouveau, en fait. Hein. Apple a déjà créé les puces M-Series, qui équipent les MacBook Pro et les MacBook Air depuis plusieurs années maintenant. Et il y a déjà des composants qui sont dédiés à l'intelligence artificielle. Hein. Maintenant, dans les puces et dans les microprocesseurs des MacBook Air, on a des CPU, qui sont microprocesseurs qu'on avait il y a...
Depuis toujours.
On a les GPU, qui sont les...
Processeurs
graphiques, avec Nvidia, qu'on connaît bien. Et on a des NPU, qui sont des Neural Process Units, et qui sont des cœurs qui sont dédiés aux opérations d'intelligence artificielle, de traitement sur les réseaux de neurones, et qui le font plus efficacement qu'un GPU et plus rapidement qu'un GPU. Voilà. Donc, quelque part, Microsoft revient au niveau. D'accord ? Ils reviennent au niveau et c'est leur concurrent principal, c'est Apple. Mmh. Ils ont presque du retard, ils ont presque 2 ans de retard. La première puce M d'Apple, c'est 2020.
Ouais, et tu as raison parce que d'ailleurs le responsable de Microsoft ne s'en est pas gêné. Il a dit en fait nos PC sont 58% plus rapides que les MacBook Air les plus avancés avec ces nouvelles puces. Mm-hmm. Donc voilà, on voit que c'est la bataille de la puissance, hein, Michel aussi,
oui, dans ce domaine-là. Clairement la
Alors, même moi... si ça veut pas dire vraiment grand-chose parce que bon, voilà, 58% plus rapide. Est-ce que dans nos usages ça change quelque chose ?
Je pense pas que Microsoft était en retard en réalité. Ils étaient en avance sur l'IA. Et là, ils enfoncent le clou. Ils savent que Apple est très en retard sur l'IA. Alors, sur le mobile, ça c'est très clair par rapport à des acteurs comme Samsung et Galaxy AI. Mais là, ils viennent et ils attaquent sur le poste de travail. Et ils sont en train de, en réalité, mettre un doute dans une bonne partie d'utilisateurs, chez une bonne partie d'utilisateurs d'Apple, qui aujourd'hui, disons-le clairement, n'ont pas accès aux fonctionnalités que propose Windows intégré avec des agents qui commencent à devenir de plus en plus intelligents dans les suites logicielles de Microsoft. Sauf que là, ils ont intégré, alors c'est un peu un gimmick, un bouton Copilot sur le clavier. Ouais. Bon, c'est vraiment une affaire d'intégration, mais c'est
la puissance de Microsoft qui arrive à créer une nouvelle touche sur les PC.
Mais il l'avait déjà fait avec la touche Windows.
Oui, il l'avait fait avec la touche.
Mais ça remonte à
95. Windows, quasiment.
Donc il y a 30 ans. Et là, ils arrivent à avoir une nouvelle touche copilote.
Alors il y a un deuxième aspect.
Il y a dû avoir des tractations avec les constructeurs de PC, je pense.
Il y a un deuxième aspect très intéressant, c'est cette idée de faire fonctionner les IA localement sur les machines. Ouais. Pour l'instant, soyons clairs, Copilot plus PC, ça va être du GPT-4 et ça va être de l'OpenAI en grande partie. Mmh. Donc ça va être du cloud. Mais
oui, précise-le.
Oui, ça va être du cloud.
Ça ne tourne pas en local.
C'est exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ça sera pas du tout exploité par les nouvelles puces que tu évoquais. En revanche, il n'est pas impossible que progressivement, on voit arriver des fonctionnalités avec des modèles beaucoup plus légers, peut-être sur le traitement d'images, peut-être sur des traitements de mail ou de correction.
Mais le responsable de Microsoft l'a déjà annoncé, en fait. Il a annoncé des fonctionnalités qui tourneraient en interne sur le PC sans faire appel au réseau.
Et ça, c'est la strate d'Apple.
Et ça, c'est intéressant.
C'est la strate d'Apple, parce qu'Apple a vocation à protéger les données de ses utilisateurs et de faire fonctionner ses IA sur les machines, et notamment les M3, les M4 et peut-être demain les M5.
Oui, mais Microsoft a un défi que n'a pas Apple, c'est que Apple, il contrôle toute la chaîne du hardware jusqu'au software. Alors que là, Microsoft doit se mettre d'accord avec Qualcomm, avec Intel pour construire les puces qui vont héberger
et après
puces.
Avec tous les intégrateurs enfin et après tous les
constructeurs. Avec tous les intégrateurs les Sony ouais. les Acer etc donc en fait et puis et sans compter les couches logicielles parce que tout ce que tu évoques d'avoir des agents qui communiquent il faut bien les développer donc il faut construire cette couche logicielle. Windows nous parle de faire évoluer Windows pour faire en sorte que ces agents arrivent. Combien de temps faut-il attendre pour que la nouvelle version de Windows soit équipée de ces choses-là? Je pense que c'est pas du jour au lendemain.
Mais ils vont s'appuyer sur OpenAI. La réalité, c'est que aujourd'hui Microsoft a une très grande partie des parts d'OpenAI et c'est pas un hasard. Ils vont intégrer progressivement, au fur et à mesure, les fonctionnalités de ChatGPT et plus dans Windows. Alors, ce qui est intéressant, ouais, c'est le nouvel accord d'Apple avec OpenAI.
Ouais.
C'est que Apple
qui est officiel. Alors, j'ai pas l'impression qu'il soit toujours officiel.
L'information a fuité il y a à peu près une semaine.
Ouais.
On n'a pas eu de confirmation de la part d'Apple et on n'en aura pas probablement avant.
Oui, jusqu'à la WWDC ouais, du 10 juin.
10 juin. Ouais. Mais il est probable qu'à ce moment-là, ils annoncent iOS 18 avec un chatbot qui ressemblera, sans à doute. Mon avis, comme deux gouttes d'eau à la démo qu'on a vue d'OpenAI avec ChatGPT 4o. Avec la voix, et ça sera le nouveau Siri. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'OpenAI est à l'intersection du monde Microsoft ouais. et du monde Apple.
Ça montre aussi leur puissance. Mais alors, je ne veux pas me faire un peu mon oiseau de mauvais augure, mais il faut savoir que le marché du PC est en berne. Ça ne va pas, hein, parce qu'après le Covid, tout le monde achète des PC. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. On ne va pas changer de PC tous les 6 mois. Hein. Est-ce que ce n'est pas aussi une manipulation marketing pour dire... Bah écoutez, on rajoute un peu d'IA, on rajoute de nouvelles puces et on va rebooster le marché parce que Microsoft est très optimiste concernant ces nouveaux ordinateurs. Écoutez bien, le groupe américain estime que plus de 50 millions de ces nouveaux PC IA seront vendus dans les 12 mois à venir. C'est pas rien. Est-ce que c'est pas aussi une manipulation pour booster un peu les ventes et redonner un peu d'intérêt à un marché qui est en berne?
En fait, l'ironie du sort, c'est que celui qui a redonné le goût au PC, c'est Apple. Et pourquoi ils ont réussi à faire ça? Parce qu'ils ont évolué vers des nouvelles architectures qui s'appellent les architectures ARM, qu'on trouve d'habitude sur les téléphones portables,
oui,
sur les, en gros les terminaux qui sont des terminaux mobiles et qui doivent être frugaux en termes de consommation d'énergie. Et donc, avec cette annonce, Microsoft évolue vers une architecture de type ARM. Et cette architecture de type ARM, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet, un, de démarrer très rapidement. Je me souviens, il y a 30 ans, quand on démarrait Windows, il fallait attendre 5 minutes.
C'est vrai. Moi, je me souviens de Windows XP, où on était à deux doigts de s'endormir. Hein, quand
c'était vraiment douloureux, mais en même temps, il n'y avait que ça qui existait, donc le tolérait. Aujourd'hui, on ne le tolère plus, parce qu'un iPhone, c'est toujours allumé, et ça marche bien. Et on le redémarre jamais. Deuxième aspect, la batterie. En fait, moi, il se trouve, je suis très Apple. Donc, j'ai un MacBook Air avec équipée d'une puce M2. C'est pas la dernière, c'est pas la M3, c'est une M2. Mais moi,
même
je tiens toute la journée.
Sur ce plateau.
Moi, je tiens toute la journée avec cette puce-là. Donc, bon, c'est bien que Microsoft dise je vais avoir une nouvelle puce et je vais pouvoir utiliser un PC sans le recharger toute la journée. Mais ça existe déjà. Donc c'est en ce sens où je disais que...
Non, mais est-ce que l'intelligence artificielle, le fait de dire, ben voilà, vous allez pouvoir faire du traitement d'image, avoir quelques fonctionnalités avec des prompts, etc. Est-ce que ça intéresse les gens, franchement? Est-ce que ça va révolutionner les usages qu'on a avec notre PC?
C'est ça la question. Ça les révolutionne déjà, François, au travers d'un certain nombre d'applications.
Via ChatGPT,
oui, tu vois. Mais c'est ça la force de Microsoft, s'ils le font correctement, parce que pour le moment, ils ne l'ont pas fait correctement. Quand tu regardes Copilot intégré à Word, intégré à PowerPoint, intégré à Excel, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. C'est ChatGPT qui prend le relais. Donc, s'ils font correctement l'intégration avec l'ensemble de l'environnement, là, ça vaudra le coup en termes de
production. Je pense qu'ils ont la puissance pour le faire.
Ouais,
donc, on peut être optimiste aussi pour...
On parlera de tout ça, d'ailleurs. On va évoquer encore une fois ce sujet, puisque je reçois dans quelques minutes Nicolas Saint-Aubin, qui est le directeur de la division produits chez Acer France, qui justement en collaboration avec Microsoft sort ses PC à Copilot Plus, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il nous décrira justement les avancées et les nouveautés qui arrivent donc sur ce type de machine. Demain, VivaTech, juste pour vous dire que, évidemment, c'est la grand-messe de la technologie française. Nous y serons demain. Michel, toi aussi, tu y seras ?
Oui, j'y suis.
Et tu vas...
C'est
un rendez-vous important pour toi, VivaTech.
Je vais me balader. Hein. Je vais aller voir quelques stands, quelques entreprises qui m'intéressent, principalement de l'IA. Donc peut-être qu'on se croisera.
On se croisera sans doute, puisqu'on aura notre studio. D'ailleurs, si vous vous rendez à VivaTech, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, puisque Tech & Co sera enregistré depuis là-bas. Emmanuel, tu y seras ou pas?
Malheureusement, pas cette année.
Mais c'est un rendez-vous qui t'intéresse ?
Oui, c'est un rendez-vous important dans la tech et qui a fait ses preuves. C'est la 8e édition cette année. Musk parlera.
Oui, c'est vrai.
Tout comme l'année dernière.
Voilà. Ne boudons pas notre plaisir. Voilà, célébrer la tech, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est ce qu'on fera à partir de demain, donc à Paris. Vous savez, il y a quelques grands rendez-vous. Le CES de Las Vegas, qu'on vous fait vivre aussi. Puis donc, évidemment, ce VivaTech. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Michel. Merci Michel Lévy Provençal, que vous verrez peut-être dès demain arpenter les allées de VivaTech si vous vous y rendez, prospectiviste fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Et merci Emmanuel Vignon.
Merci François.
Tu reviens quand tu veux Emmanuel, tu es le bienvenu.
Avec plaisir.
Président de Sicara, et vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant avec au sommaire pour notre deuxième partie. Je vous le disais, je recevrai le directeur de la division produits chez Acer France qui nous parlera donc de ses nouveaux PC boostés à l'IA. Ce sera dans quelques minutes. Et puis on a testé aussi, alors ça c'est top, l'IA des Ray-Ban Meta, et c'est Arnaud Auger qui les teste depuis quelques temps, qui va nous raconter vraiment ce qu'apporte l'intelligence artificielle sur ces petites lunettes qui ressemblent à des vraies lunettes de soleil. Mais il y a des petits haut-parleurs, il y a des caméras et il y a l'IA de Meta. Tu parlais de Llama tout à l'heure, Llama est intégré et ça fait des trucs de dingue. Arnaud nous expliquera tout ça. Voilà la demi-heure alléchante qui vous attend, vous restez avec nous, et dans un instant c'est Léa Benahim qui nous rejoint pour le Tech Flash. À tout de suite et merci d'être là.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Voilà, dans quelques instants, Nicolas Saint-Aubin, directeur de la division produits chez Acer France, me rejoint, mais auparavant à 21h04. Comme chaque soir, ce qu'il faut retenir de l'actu tech, c'est avec Léa Benahim et c'est le Tech Flash. Bonsoir Léa.
Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, une bonne nouvelle pour les franciliens et les touristes de passage à Paris. Le Pass Navigo est enfin disponible sur les appareils Apple, que ce soit l'iPhone ou l'Apple Watch. 3 ans de négociations plus tard et 2 ans après Android, la fonctionnalité est arrivée ce matin sur iOS, juste à temps pour les Jeux Olympiques.
J'ai testé, ça marche en plus.
C'est vrai ? Ah mais oui, c'est vrai. Moi, je peux pas du coup, mais on vous fera les petites vidéos. Alors pour l'ajouter, comme François, il faut avoir la dernière mise à jour de son iPhone et se rendre dans le wallet pour télécharger son pass. Et par contre, pour les déçus comme moi, c'est seulement pour ceux qui ont un pass avec des tickets à l'unité. Le forfait annuel, lui, c'est pas pour tout de suite. Le sommet de l'IA à Séoul s'est terminé ce midi et 16 des principales entreprises du secteur se sont engagées à faire preuve de transparence. Parmi elles, OpenAI, Microsoft, Amazon, IBM, Meta ou encore le français Mistral. Concrètement, les entreprises doivent rendre publique la façon dont elles évaluent la sécurité des technologies qu'elles développent. Des seuils de dangerosité seront ensuite définis d'ici le prochain sommet de 2025 prévu en France. Accord qui dénote avec les annonce d'OpenAI qui a récemment dissous son équipe en charge d'évaluer les risques liés à l'IA. Toujours du côté de l'intelligence artificielle, le laboratoire français Sanofi a signé un partenariat avec OpenAI et avec la biotech américaine Formation Bio. À E3, ils espèrent accélérer la recherche de nouveaux médicaments grâce à l'IA et à chacun son rôle. Sanofi fournira de la data à l'entreprise de Sam Altman qui, elle, donnera accès aux technologies de pointe pour affiner les modèles. Et avant de terminer ce journal, une attaque que n'avait sûrement pas vu venir Sam Altman, c'est Scarlett Johansson, l'actrice américaine qui accuse OpenAI d'avoir utilisé sa voix dans la dernière mise à jour GPT-4o. Elle raconte que l'entreprise l'avait déjà contactée en septembre dernier mais qu'elle avait refusé, un choix visiblement pas respecté par OpenAI. S'en est suivi d'excuses de la part de Sam Altman en personne qui a accepté à contre-cœur de supprimer la voix en question. Et pour finir, rendez-vous sur les replays de BFM Business pour une nouvelle émission de Pauline Ducamp en route pour demain. Et cette semaine, zoom sur la marque DS qui présente sa nouvelle collection pour fêter ses 10 ans. Je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
Ça fera 10 ans, hein, le 1er juin, que la griffe luxe de Citroën est devenue une marque à part entière sous la houlette de Carlos Tavares. Et si les ventes étaient stables l'an dernier, hein, 56 000 exemplaires environ vendus dans le monde, les résultats ne sont pas très positifs. En effet, depuis le début de l'année, les ventes sont en baisse et surtout, la marque n'a pas vraiment progressé depuis 2019. DS n'a pas présenté de nouveaux modèles depuis 2 ans. La stratégie tournée vers la Chine des années 2010 a été un échec et DS n'a peu ou proue qu'un seul marché aujourd'hui, c'est l'Europe. Alors comment DS peut aussi exister à côté des deux autres marques premium du groupe Stellantis, beaucoup plus connues mondialement, Alfa Romeo et Lancia? Quels modèles vont appuyer sa croissance dans les prochaines années? Et bien, toutes ces questions, nous les poserons tout à l'heure à Olivier François. C'est le directeur général de la marque DS. Il est arrivé il y a un peu moins d'un an, justement pour relancer la marque. Il commence à dessiner son plan stratégique. Il prend aujourd'hui la parole pour la première fois et il le fait dans En route pour demain.
Voilà, En route pour demain, l'émission de Pauline, à retrouver évidemment sur la plateforme RMC BFM Play, sur BFM Business et sur la chaîne YouTube de Tech & Co. 21h08, allez, on va découvrir le PC de demain. Maintenant, le PC boosté à l'IA avec mon invité.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et Nicolas Saint-Aubin nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes directeur de la division produits chez Acer France. Acer qui a lancé son premier PC IA Ready, c'était en décembre dernier, parce que évidemment l'IA, ça fait un moment qu'on en parle, et évidemment il faut que les constructeurs de PC s'accaparent en fait cette technologie, hein, cette manne d'innovation. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça s'est accéléré avec l'annonce de Microsoft qui s'est faite aujourd'hui, avec cette volonté d'intégrer des puces spécifiques pour avoir une intelligence artificielle encore plus performante. Et bien évidemment, vous faites partie des partenaires privilégiés de Microsoft. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que Microsoft a annoncé là?
Oui, tout à fait. Alors déjà, effectivement, nous, on est très impliqués sur le sujet, on y croit beaucoup. Donc, comme vous le disiez, depuis décembre, on est déjà parmi les premiers avec Intel à lancer les premières PC qui déjà intégraient de l'IA, qui était IA Ready avec la génération Meteor Lake d'Intel. Et effectivement, là, cette semaine, ces derniers jours, une nouvelle étape vraiment importante avec Microsoft, qui est avec ce nouveau label, on va dire, qui s'appelle Copilot Plus. Donc, tous les PC qui auront un certain niveau de spécificité technique, donc il y en a plusieurs, les énumérer si vous voulez, mais effectivement auront ce label Copilot Plus. Et là, en l'occurrence, c'est que on en parlait, effectivement, c'est que des processeurs Qualcomm, Snapdragon, précisément les X Elite et les X Plus, pour être très précis.
Donc c'est Microsoft qui donne un petit peu sa bible, sa bible technologique,
tout à fait.
Pour qu'un PC puisse avoir le label, le tampon Copilot Plus.
Tout à fait.
D'accord. Et ces spécificités technologiques, c'est ces nouveaux processeurs Snapdragon, c'est ça?
Alors, il n'y a pas que ça, il y a effectivement aussi la caméra qui doit être au moins QHD, l'autonomie qui doit être au moins de 12 heures.
Ok, d'accord.
Au moins 16 gigas de RAM, au moins 256 gigas de stockage, parce qu'il y a une partie, on va en parler, qui est stockée sur la machine.
Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est un PC boosté aux amphétamines,
voilà.
Quoi.
Donc, effectivement, il y a à la fois le hardware, où on fait vraiment un bond en avant. Donc, nous, déjà, on est là en tant que constructeur pour rassembler tous ces éléments-là, faire dans le plus bel écran. Moi, je pourrais en parler aussi de notre
site. Bien sûr, vous êtes venu avec un PC, justement, vous allez nous le décrire dans un instant.
Et effectivement, il y a l'IA. Alors, on parle beaucoup de l'IA, on pourra parler de Microsoft et Copilot Plus et Copilot. Mais effectivement, la machine, déjà en tant que telle, on fait des gains énormes sur l'autonomie, puisqu'on passe à plus de 16 heures d'autonomie. Alors, selon les modèles, ça peut être 16, 12, 15, 20, selon les modèles, bien sûr. Par exemple, notre produit qui...
Donc, on rejoint l'autonomie d'Apple.
Voilà.
Et des MacBook Air, notamment.
Tout à fait. La performance pure de CPU est très bonne, qui est annoncée comme meilleure qu'un M3.
Ouais. On verra. Donc, le processeur d'Apple, qu'il y a dans le dernier MacBook Air.
Tout à fait. Et puis, effectivement, voilà, nous, on arrive aussi avec des machines qui, en plus, ont les sorties de veille quasi instantanées, sont renforcées sur la partie sécurité. Et donc ici, effectivement, nous, par exemple, on a le Swift qu'on a appelé le Swift 14 IA, avec un nouveau logo, et qui est, comme je le disais, on essaie de faire un bel écran, c'est-à-dire que c'est un châssis qui est full alu, qui pèse un peu plus d'un kilo 3, donc qui est quand même léger, qui a une très bonne autonomie, comme je disais, qui a une super dalle aussi, 120 Hz, qui a le Wi-Fi 7, donc des super connexions au niveau du Wi-Fi, qui, en plus, on essaie d'avoir aussi d'être un peu plus vertueux, c'est-à-dire que tout ce qui est plastique, c'est du plastique recyclé au maximum, d'accord, l'emballage est recyclable à 100%.
C'est la nouvelle ère du PC.
Tout à fait. Nouvelle ère du PC.
On peut dire ça comme ça. Mais malgré tout, il y a une petite révolution, c'est qu'à l'intérieur, c'est Qualcomm qui arrive.
Oui.
Et ça, c'est une.
Ça, c'est nouveau. Ils avaient
fait un séisme dans le monde de l'informatique et dans le monde du PC, non?
Tout à fait.
On est d'accord.
Qui était très dominé par Intel et en partie AMD.
Oui.
Et là, Qualcomm avait fait quelques incursions, mais pas toujours avec un grand succès, pour le dire gentiment.
Notamment avec les Surfaces, il y a quelques années de cela.
Et donc là, ils ont collaboré très fort avec nous, les constructeurs, et avec Microsoft, pour vraiment avoir en plus l'OS qui est bien adapté à Qualcomm, donc une base ARM, pour que ça soit fluide, que ça fonctionne, que les applications fonctionnent bien. Et donc là, effectivement, on a le meilleur mariage, on va dire, de tous les mondes.
Oui, parce que c'est pas la même architecture technique. Ça veut dire que finalement, c'est le même Windows qui tourne sur Intel, qui tournera sur un PC avec du Qualcomm.
Oui, alors plus ou moins, alors Microsoft pourra vous en parler mieux que moi, mais il y a aussi une forme d'émulation pour arriver à ce que toutes les applications...
Mais en gros, moi, utilisateur, ça sera totalement transparent.
Oui,
je pourrai utiliser mon PC comme je l'utilise habituellement, que ce soit sous Intel ou avec des processeurs Qualcomm.
Oui, tout à fait.
Et tout ça, ça arrive quand?
Ça arrive là, courant juin. On a déjà commencé des précommandes sur certains sites internet bien connus. Effectivement, ça va arriver, on va dire, plutôt deuxième quinzaine de juin, progressivement. Et en fait, il va y avoir toute une gamme. Là, je vous présente ce produit-là.
Donc celui-ci, c'est l'un des tout premiers.
C'est l'un des tout premiers, effectivement.
Avec du Qualcomm à l'intérieur.
Tout à fait.
D'accord.
Qui va arriver d'ici fin juin. Et en fait, on va avoir toute une gamme, différentes tailles, différents processeurs. Même au sein de Qualcomm, il y aura toute une gamme. Et puis après, arriveront leurs concurrents dans nos gammes aussi. Bien sûr, Intel et AMD ne vont pas rester sur la touche. Et bien sûr qu'il y aura
d'accord. Aussi des choses. Donc, ils vont réagir et proposer des machines équivalentes, c'est ça?
Il y aura effectivement de l'IA.
Mais pas tout de suite.
Pas tout de suite. Mais il y aura de l'IA, effectivement. Microsoft en parlait aussi. Il y aura de l'IA, effectivement, chez tout le monde. Et ça va être... Nous, on pense que ça va être effectivement quelque chose de très important, une rupture, et que ça va peser d'ici 2027, 60, plus de 60% de nos offres. Donc, ça va être vraiment...
Donc, c'est quelque chose, c'est quelque un chose game changer, massif, comme on dit.
Tout à fait. Ouais, tout à fait.
Concrètement, expliquez-nous, qu'est-ce qu'apporte cette IA ce Copilot Plus, en fait, voilà, j'achète un PC avec ce nouveau, on va dire, cette nouvelle référence technique, Windows 11, Copilot Plus. Qu'est-ce que je vais avoir comme fonctionnalité d'IA?
C'est tout le défi, ça va être d'expliquer au passage, parce que c'est vrai que nous, on est au milieu de tout ça, on est au milieu du software, du hardware, des retailers, enfin Fnac Darty, Boulanger, Carrefour, tout le monde, Amazon,
le web aussi.
Effectivement, le web. Il va falloir expliquer tout le travail de pédagogie. Ouais. On va tous se mettre ensemble pour expliquer tout ça.
Ça risque de ne pas suffire de dire, bah voilà, mon PC, il est plus beau, il est plus fin, il a plus d'autonomie, l'IA. Ok, mais l'IA, à quoi ça sert, quoi?
Tout à fait. Et en fait, la cible principale au début, à notre sens, c'est plutôt quand même le professionnel.
Okay.
Professionnel, on va dire, comme on dit des fois, prosumeur ou étudiant. Parce qu'en fait, notamment, les aspects principaux, c'est la sécurité. La sécurité, c'est extrêmement important pour les entreprises. L'IA est un sujet très à la mode, mais la sécurité, ça fait quelques années que c'est très important. En fait, avec Copilot Plus, les données restent sur la machine ou dans le réseau fermé de l'entreprise. Donc ça évite qu'il y a eu des cas graves, entre guillemets, de données qui sont parties à l'extérieur, on va dire, et parfois confidentielles. Donc c'est très important que ça reste en circuit fermé, sous sécurité. Bien sûr aussi que ça va être plus rapide. Ça ira pas dans le cloud, donc forcément, ça sera plus rapide.
D'accord. Et puis, mais il y aura pas aussi autant de puissance qu'un ChatGPT, par exemple. On est d'accord?
Ça, j'ai du mal à vous répondre précisément. D'accord. Sur la puissance, mais pour moi, ça sera des mêmes niveaux de puissance et de rapidité. Et puis, quand on n'a pas Internet, ce qui n'est pas si souvent, mais malgré tout, ça peut arriver. Ça peut arriver, dans le train, on n'a pas. Donc, ça fonctionnera toujours, même sans Internet.
Donc, on aura de l'IA qui sera conçue, fabriquée en temps réel par l'ordinateur. Oui. C'est ça la nouveauté.
C'est le processeur qui intègre donc cette fameuse NPU qui permet de faire ça. Sans parler que Copilot Plus de Microsoft a des fonctions supplémentaires ici, type Recall. Donc Recall, ça permet de retrouver des données. En fait,
on a... C'est comme un historique de nos usages de l'ordinateur, je crois.
Tout à fait. Des applications pour générer de l'IA, des applications aussi pour améliorer la résolution ou la fréquence des images en jeu vidéo.
Okay.
Donc, c'est aussi à la partie jeu vidéo, c'est quand même aussi intéressant. Enfin, différentes fonctionnalités aussi que eux ont implantées en plus qu'il n'y a pas dans les versions non Copilot Plus.
Dernière petite question, vous parliez de jeux vidéo justement. Est-ce que cette nouvelle infrastructure technique est compatible avec les gamers? Ou est-ce que finalement, il faudra toujours s'offrir un ordinateur avec de l'Intel, des gros processeurs, de la grosse mémoire, etc., etc.?
Alors, au fur et à mesure, effectivement, que cette partie processeur fait des bons en avant énormes, parce qu'effectivement, par rapport aux précédentes générations, c'est des bons vraiment en avant. On a du mal à se rendre compte, mais c'est énorme, les performances supplémentaires. Oui, certains jeux, quand on n'est pas trop exigeant,
tourneront avec du Qualcomm.
Tout à fait. Et déjà, aujourd'hui, c'est un peu le cas. Après, sur des très exigeants, bien sûr qu'il faut une machine quand même adaptée.
Dernière question, est-ce qu'un PC nouvelle génération Copilot Plus va coûter plus cher qu'un PC traditionnel? Vous avez déjà des gammes de tarifs?
Oui, alors le produit-là, il sera entre 1299 et 1499. Mais par rapport à tout ce qu'il y a dedans, c'est d'un niveau de prix similaire à ce qu'on avait aujourd'hui.
Donc on est quand même sur du PC haut de gamme?
Pour l'instant, c'est du PC haut de gamme, tout à fait.
D'accord. Et ça peut après descendre sur du moyen de gamme, etc. Aussi
comme toutes les technologies un peu nouvelles, au début, c'est souvent un petit peu plus premium. Et puis en plus, l'usage pro fait que les pros sont exigeants. Donc ils veulent aussi des machines d'un bon niveau de qualité. Mais effectivement, dans les années qui viennent, on peut imaginer que comme ça va représenter, comme je disais, 60% de notre offre, ça va s'étendre sur des zones de prix un petit peu plus basses.
Dernière question. Donc en juin prochain, on pourra acheter un PC Acer ?
Oui.
Certifié Copilot Plus.
Oui.
En France.
Oui.
Eh bien voilà, c'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup Nicolas Saint-Aubin.
Merci à vous.
Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co. Vous êtes directeur de la division produits chez Acer France. Et tout de suite, direction la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Kesso Diallo nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Kesso.
Bonsoir François.
Alors ce soir, tu vas nous parler de Neuralink, la start-up d'Elon Musk, qui a obtenu le feu vert pour installer son implant dans le cerveau d'un deuxième cobaye.
Eh oui, François, t'en avais parlé déjà il n'y a pas longtemps,
ouais.
Avec Nolan Arbaugh, cet Américain tétraplégique qui a été le premier implanté aux États-Unis. Alors avec Neuralink, Elon Musk il veut tout simplement augmenter les capacités du cerveau humain avec des implants. Là, il a commencé avec des personnes malades et il imagine qu'il pourra redonner la vision à des personnes qui sont aveugles ou même aider des personnes paralysées à remarcher. Alors, pour l'instant, ça a plutôt bien fonctionné. Alors, Nolan Arbaugh, avec cet implant, il a pu jouer aux échecs et même à Mario Kart simplement par la pensée.
C'est top, incroyable.
Ouais. Et là, ils ont obtenu le feu vert pour implanter l'implant d'Elon Musk dans un second cerveau.
Alors, c'est quand même surprenant qu'ils aient obtenu cette autorisation avec tous les problèmes qui ont été révélés. Hein.
Et oui, parce que même si l'implant il a bien fonctionné, pour Nolan Arbaugh, ce rêve il est temporairement devenu un cauchemar. Il y a quelques jours, il a expliqué avoir commencé à perdre le contrôle. En fait, l'implant il est constitué de petits fils. Et ces fils, ils ont commencé à se rétracter du cerveau.
Oui, donc il n'était plus positionné au bon endroit, c'est
ça ? Et il avait plus de mal, du coup, à contrôler le curseur à l'écran. Alors, heureusement, aujourd'hui, il va bien. Le problème, il a été résolu par Neuralink, qui a expliqué avoir tout simplement modifié son algorithme d'enregistrement. Donc, maintenant, il est plus sensible aux signaux neuronaux.
Donc, il arrive, encore une fois, à profiter de tout ça. Et c'est peut-être parce que, justement, il y a eu tout cela que, en fait, la FDA a autorisé, en fait, une deuxième expérimentation. Hein.
Oui, en fait, Neuralink a expliqué avoir trouvé une solution. Dans le cerveau de Nolan Arbaugh, l'implant, il était entre 3 et 5 mm dans le cerveau. Et là, ils vont le mettre à 8 mm. Donc, apparemment, ça permettrait de résoudre le problème. Mais
plus profondément.
Plus profondément. Mais on le saura vraiment quand on aura un second humain qui sera implanté. Et pour l'instant, ils sont encore à la recherche de ce second humain.
Voilà, impressionnant. Hein, c'est vertigineux ce que fait Neuralink. Ouais. Voilà, on aime ou on déteste, mais en tous les cas, effectivement.
Pour l'instant, c'est plutôt angoissant.
C'est plutôt angoissant. Mais bon, cette personne tétraplégique arrive à retrouver une interaction, pouvoir jouer aux jeux vidéo et écrire, par exemple, c'est formidable. Quand même. Hein.
En fait, c'est aussi,
on se met à sa place.
C'est aussi bluffant qu'effrayant.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Merci beaucoup. C'était Kesso Diallo, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et vous voulez en savoir plus sur Neuralink, je vous renvoie sur le site de Tech & Co, bien évidemment. On va encore parler d'IA, tiens, avec une paire de lunettes qu'a testé Arnaud Auger, qui est sur notre plateau. Il va tout nous expliquer tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne. Décryptage.
Arnaud Auger, bonsoir Arnaud.
Bonsoir François.
Directeur adjoint du BNP Paribas C-Lab Americas. Rappelons que tu es basé à San Francisco. Je ne sais pas si tu es là en ce moment pour VivaTech.
Exactement, évidemment.
Voilà, donc on va sans doute se croiser dans les allées de ce salon, puisque je vous rappelle que nous, dès demain, Tech & Co sera délocalisé. On aura notre plateau Tech & Co sur ce grand salon dédié à la tech en France. Hein. On sera là mercredi, jeudi et puis lundi prochain avec Fred Simotel qui vous présentera cette émission. Il y aura aussi De quoi je me mail. Tu es avec nous parce que tu as une paire de lunettes sur le nez.
Exactement.
Un peu particulière. C'est des Ray-Ban.
Meta.
Meta, des Meta Ray-Ban, enfin des Ray-Ban Meta.
Ray-Ban Meta.
Ouais, c'est comme ça. Donc c'est des Ray-Ban avec de l'intelligence à l'intérieur et tu as testé une fonctionnalité qui est tout à fait récente.
Exactement, donc c'est quand il y a eu les premières Ray-Ban Stories, il y a un peu plus de 2 ans, là il y a les Ray-Ban Meta, mais en effet, avec le lancement de Llama 3 il y a quelques semaines, c'est aussi mis à disposition aux États-Unis dans les Ray-Ban Meta, et donc vu qu'elles sont équipées de caméras, de micros, de petites enceintes dans les branches, eh ben on peut interagir avec l'IA, et concrètement, je suis allé courir à San Francisco sur la plage, j'ai vu un pont, puis j'ai vu tester.
Courir à San Francisco sur la plage, c'est la classe. Quand même.
Voilà. Et j'ai voulu tester si l'IA savait reconnaître le nom du pont. Donc, j'ai demandé comment s'appelle ce pont.
Donc là, il suffit que tu pointes, que tu regardes le pont.
Exactement.
C'est ça.
Les
caméras. Tu parles aux lunettes.
Exactement. Les caméras captent en effet l'image du pont. L'IA reconnaît que c'est sans doute le Golden Gate Bridge. Et donc, il m'a dit, il s'agit du Golden Gate Bridge. Je me suis dit, bon, peut-être que le Golden Gate Bridge est un peu trop iconique.
Ouais, c'est un peu trop facile.
Un peu trop facile, ça. Ouais. Hein. Et donc, j'ai regardé l'île un peu au loin. Alors, comment s'appelle cette île? Et du coup, c'est vrai que c'est quand même une certaine distance.
Tu la voyais comment, cette île? Bien ou elle était...
Oui, on la voit. Enfin, à San Francisco, on la voit bien, mais ouais, quand même, c'est pas à 3 mètres, quoi. Mmh. Et donc là, c'est bien reconnu que c'était Alcatraz. Donc je me suis dit, bon, le souci est peut-être un peu iconique, c'est un peu plus lointain. Donc j'ai à nouveau tourné la tête, je me suis dit, bon, peut-être qu'en fait, ça croit simplement la localisation. Il se dit, voilà, vu où je suis placé, peut-être que...
Exactement, il se dit, il est en face d'Alcatraz, il a le côté, le Golden Gate Bridge, voilà, ça suffit, quoi.
Ça suffit. Et en fait, non, j'ai tourné, et vous avez, il y a une petite tour, ancienne tour de radio, au sommet de Twin Peaks à San Francisco. Et donc là, j'ai demandé comment s'appelait cette tour, et là... La Tour Eiffel. Donc
la Tour Eiffel.
La Tour Eiffel.
Waouh. Ah oui. Donc là, donc, le GPS n'était pas connecté, quoi.
Voilà. Donc du coup, bon, au moins c'était pas via la localisation, mais bien via l'image. Alors il y a encore des bugs ou du moins des bluffs, parce que j'ai demandé ensuite, mais est-ce que tu mens? Non, je ne mens pas.
Je ne mens pas.
Je ne mens pas.
Mais est-ce que tu es sûr que c'est la Tour Eiffel? On est à San Francisco. Petit indice.
mais voilà. Après, mais j'ai testé sur plein de choses. Voilà. Les chiens, donc on reconnaît l'espèce, ça marche. Les fleurs, ça marche. J'ai une amie même qui avait une plante en mauvais état. Elle a regardé sa plante, elle a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. Et en effet, l'IA a pu reconnaître la plante, son problème et recommander une solution. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment ce cas d'usage-là de l'IA multimodale. Et moi, du coup, je suis convaincu que les lunettes intelligentes, les lunettes connectées, ça va être le prochain device connecté.
On va en parler dans un instant, parce que j'imagine que tu vois déjà les usages de demain, notamment dans le commerce. Hein. C'est passionnant.
Exactement.
Parce que c'est ton métier, hein, à BNP Paribas, à C-Lab America. Mais une petite question toute simple. Est-ce que c'est fluide? C'est-à-dire que...
Ouais.
Tes lunettes sont connectées à ton smartphone.
Ouais.
Ça marche bien. T'es obligé d'attendre avant d'avoir la réponse à ta question.
Non, c'est assez
fluide. Tout ça est assez rapide.
C'est presque aussi fluide qu'un journaliste de Tech & Co, c'est pour dire.
C'est vrai?
Ouais, wow. Ouais, carrément. Non, c'est assez fluide. et après, en effet, il y a un avantage collatéral que je trouve à ces lunettes-là, c'est qu'en effet, vous pouvez avoir la lecture de vos messages sur WhatsApp directement dans les branches.
Ah, pas mal.
Et donc, du coup,
parce qu'il y a des haut-parleurs, dedans.
Exactement. Et donc, du coup, moi, je ne regarde plus mon téléphone quand je sors, parce que j'ai plus le FOMO de voir les messages que j'aurais pu recevoir. Et des fois, quand on a une vibration, on regarde son téléphone, et bien, on va regarder d'autres applications. Et ben là, je le fais plus, parce que les messages, je les ai importants. Et donc, du coup, je peux me Donc, paradoxalement, ça me permet de déconnecter des écrans. Donc, je trouve que c'est un cas d'usage aussi intéressant.
Ouais, et alors, ce qui est amusant aussi, c'est que quand tu arrivais sur ce plateau, tu avais tes lunettes, il y avait une petite lumière qui clignotait.
Exactement.
Ça veut dire que tu étais en train d'enregistrer ton arrivée sur le plateau.
Exactement.
Et moi, je l'ai vu. Et c'est fait exprès.
Et ouais.
Pour que je sache que tu es en train de filmer, pour qu'il n'y ait pas de problème. Là, voilà. Typiquement, je ne sais pas comment tu as fait.
Mais il y a un petit bouton.
Il y a un petit bouton. Je ne sais pas si vous êtes avec nous à la télé, il y a une petite lumière qui s'allumait sur le côté en fait de la Ray-Ban qui stipule que Arnaud est en train d'enregistrer.
Voilà, c'est pour avertir en effet pour le respect de la vie privée qu'on est en train de filmer en effet.
Il nous reste 30 secondes. Quels sont les usages que tu imagines avec cette paire de lunettes demain?
Moi, j'imagine en effet qu'on puisse passer devant un magasin. On se demande quelle est la promo du moment. La caméra reconnaît le magasin offre une promo et du coup me la dicte dans les branches, et du coup je peux rentrer dans le magasin, voilà. Donc peut-être que demain elles seront gratuites, ces modèles de Facebook, on pourrait être finalement subventionné par les marques pour être découverte dans les rues de San Francisco ou de Paris demain.
Voilà, c'est vrai qu'on se rend pas trop compte de l'avancée de l'intelligence artificielle chez Meta, mais elle est vraiment réelle, hein. On le voit avec ce produit qui est un petit bijou technologique. Il est sorti en France, mais il n'a pas encore cette mise à jour que toi tu as.
Ouais. Parce que c'est que pour les États-Unis pour l'instant.
Voilà. Voilà. Je pense qu'il doit avoir des problèmes ou de RGPD ou peut-être de se mettre en parallèle avec le DMA. Donc ça devrait bientôt arriver, je l'espère. En tous les cas, il nous tarde de tester ces lunettes qui coûtent combien, quoi, $300, je crois.
Ça peut plus de $300, mais ce qui est intéressant, c'est vu que moi je porte des lunettes de vue, ma mutuelle prend en charge les montures, donc ça m'a coûté moins qu'une paire d'AirPods, alors que ça fait en effet fonction d'écouteurs, mais
elles sont agréables à porter, elles
super
sont pas trop
agréables,
lourdes.
Sont assez légères. Le form factor est quand même très bien et ça fait photo, vidéo, musique et maintenant même de l'IA.
Eh bien voilà, écoute, tu peux écouter Tech & Co directement exactement sur tes lunettes avec les petits haut-parleurs qui sont intégrés. Merci beaucoup Arnaud.
Merci.
Merci d'être passé nous voir. Et évidemment, tu seras à VivaTech durant ces trois prochains jours. Nous y serons aussi, c'est la bonne nouvelle. Demain, on se retrouve donc depuis ce grand salon, porte de Versailles, pour un Tech & Co exceptionnel. Avec entre autres, tiens, la déléguée au numérique du gouvernement, Marina Ferrari, qui sera avec nous, et puis d'autres invités prestigieux. Rendez-vous demain, 20h, 21h30, pour Tech & Co. D'ici là, portez-vous bien et à demain, les amis.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.